Merci, monsieur le professeur, merci, Michel, de m'avoir invité à faire ce séminaire qui sera donc celui qui va clore la saison, si je puis dire, et, si je comprends bien, celui qui va clore le professorat de Michel Brunet, ici au Collège de France. La chaire, pardon. De Michel Brunet au Collège de France, ce que je trouve bien triste, parce que, en fait, je suis venue l'année dernière, mais je suis venue aussi il y a 2 ans, vous parler de nos découvertes et des premières industries, effectivement, sur lesquelles on travaille dans l'ouest de Turkana, au Kenya. Et voilà, et donc c'est un peu, je ne sais pas maintenant, où est-ce que je vais aller pour parler de ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, je reviendrai un peu sur ce dont je vous ai parlé il y a 2 ans pour ceux qui étaient là. Donc l'année dernière, c'était quelque chose d'un peu particulier, c'était une présentation, enfin une séance de taille, et donc c'était plutôt pour montrer comment se fabriquaient les outils. Mon propos d'aujourd'hui, c'est plutôt ce que sous-tend un peu la technologie des hominidés, dont Michel Brunet vous a parlé longuement aujourd'hui, et surtout aujourd'hui de la phase terminale, je dirais, de l'évolution des hominidés. Moi, je voudrais vous parler un peu de ce que représente ces outillages lithiques, tout ce qui reflète en fait les comportements techniques des hominidés. Et bien sûr, je vous dirai essentiellement, je vous parlerai pas mal de ce que l'on sait, bien sûr, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, forcément, nécessairement, et il y a même certaines choses qu'on ne pourra jamais savoir. On est là, je dirais, puisqu'il s'agit des premiers outillages, on est dans l'extrême un peu des limites de nos possibilités, non pas de découverte, mais d'interprétation et de connaissance, pour des raisons que je vais vous expliquer. Alors, je vais commencer par vous parler des données brutes, celles qu'on obtient par la recherche sur le terrain, les données brutes observables qui rendent compte de ces comportements techniques. Puis un petit peu des interprétations et des hypothèses à propos de ces équipements techniques très anciens. Et puis, je vous parlerai aussi un peu de quelques hypothèses qui, en fait, s'arriment aux précédentes et qui ont trait au comportement alimentaire, qui est, si vous voulez, quand on étudie les hominidés en dehors de leur évolution biologique, on les étudie sous l'aspect de leur comportement. Leur comportement technique et bien sûr les comportements alimentaires, les modes de vie, ce qui est peut-être un bien grand mot pour les hominidés, mais du moins c'est ce qu'on essaie d'approcher au plus près. Alors je vais faire un petit rappel par rapport aux données anciennes de l'archéologie, hein, on est vraiment là dans l'archéologie, dans la préhistoire. Les données pléistocènes de l'archéologie sont extrêmement rares et tout à fait limitées à l'Afrique orientale, dans 2 régions principales, en Éthiopie, dans ce qu'on appelle l'Afar, dans la formation de Hadar, où j'ai travaillé il y a très longtemps, et puis dans le bassin du Turkana, où je travaille actuellement, dans 2 régions, pour le bassin du Turkana, le nord avec la formation de Shungura le long de la rivière Omo, et à l'ouest de Turkana où je travaille également. Ce sont pour le très ancien, c'est-à-dire avant 2 millions, vous voyez là j'ai mis des dates, et c'est des dates qui sont tout à fait fiables et correctes, il n'y a pas d'autres régions au monde où l'on trouve des traces certaines, tangibles, d'une activité technique des hominidés. Alors, je dirais que la période suivante, c'est surtout à partir de 2 millions d'années, mais ça a fleuri, je dirais plutôt autour de 1,8 million. Vous voyez là, on a beaucoup plus de sites, évidemment. Comment ça marche, cette chose-là ? Voilà. Mais on est toujours à deux exceptions près, ici en Israël et ici en Géorgie, où on a un site archéologique ici et ici à Dmanisi en Géorgie. Sinon, on reste en Afrique et essentiellement en Afrique orientale. Vous voyez que là, il y a une expansion, je dirais, des sites archéologiques. On est autour d'1,8 million et ça correspond, comme vous venez d'en entendre parler, notamment au développement d'Homo erectus. Et on a un site qui est peut-être un peu plus récent ici en Algérie, à Laïn Hanech, pour la même période de temps. Ensuite, quand on passe au Pléistocène moyen, bien sûr, l'Afrique se couvre de sites et tout l'Ancien Monde également. Mais ce n'est pas mon propos. Moi, je vais rester tout à fait concentrée sur le tout début, c'est-à-dire plutôt la période entre 2,6 et 2 millions d'années. J'effleurerai un peu le Pléistocène ancien avec des sites, enfin des données de l'Oldowéen à 1,8 million, mais je vais surtout rester concentrée sur le plus ancien. Alors, bien sûr, l'évolution biologique, l'évolution d'une manière générale, ne se fait pas dans un vide, dans un vacuum. C'est bien sûr dans un milieu. Et l'évolution des espèces animales et végétales subissent toute une série de contraintes que j'ai essayé de regrouper ici. Et je suppose que vous avez dû entendre parler de ça régulièrement dans ce cours et dans d'autres séminaires. Ce sont bien sûr évidemment les contraintes climatiques qui entraînent des modifications environnementales et qui ont joué un rôle et qu'on essaie de reconnaître et d'interpréter dans l'évolution d'une manière générale. Donc, vous savez sans doute, au niveau global, on va vers quelque chose, un climat plus frais. Au niveau continental africain, vers quelque chose de plus sec, d'un peu plus sec. Et puis, pour ce qui est de la végétation, on tend vers des paysages dominés par des paysages plus ouverts, davantage de savanes, moins de forêts, et des paysages dominés par des plantes en C4, donc qui correspondent plutôt à des végétations plus ouvertes. Et bien sûr, multiplication d'espèces dominidées jusqu'à ce qu'une finale émerge, la nôtre bien sûr, mais pour la période entre 3 et 2 millions d'années, on est évidemment plutôt dans l'abondance, je dirais, que dans la restriction, ce qui pour nous est un peu compliqué, on verra un peu plus tard pourquoi. D'autres contraintes qui sont là liées tout à fait à notre recherche à nous, les contraintes archéologiques, les contraintes de terrain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des fouilles archéologiques, mais en tout cas, pour ce qui est des périodes très anciennes, ce n'est pas simple. On est en fait davantage confronté à un tissu d'éléments géologiques qui sont pas toujours faciles à interpréter. C'est une archéologie sans structure. Et donc, premier travail de terrain, c'est d'essayer de démêler tout ce qui a bien pu se passer dans la savane africaine il y a 2 millions ou 3 millions d'années. Donc, je suis désolée, c'est en anglais, je n'ai pas refait ça en français. C'est d'ailleurs un schéma que j'ai repris d'un article de Glyn Isaac. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de processus à la fois anthropiques et naturels qu'il s'agit d'émêler. Les hominidés s'installent quelque part, taillent la pierre, apportent des os, apportent des pierres, éventuellement festoient sur des proies. Les carnivores peuvent faire de même. L'eau intervient très très souvent dans les processus de formation de sites parce que les hominidés s'installent très souvent le long de rivières, de bords de rivières, donc il y a des crues. Et puis qui retire des éléments, voilà. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de phénomènes, de processus, de formation de sites et de processus post-dépositionnels après que le site ait été formé, avec aussi de la bioturbation, des éléments physiques, enfin des, comment dirais-je, des événements physico-chimiques qui modifient la structure des sédiments et parfois la structure de ce qui est à l'intérieur des sédiments. Donc, c'est une autre contrainte pour nous qu'il nous appartient de démêler et d'essayer d'interpréter pour en extraire ce qui vraiment relève de l'action anthropique sur le site même. Voilà, j'en viens quand même, après c'est un bref rappel de ces contraintes aux activités techniques elles-mêmes. Alors j'entendais tout à l'heure Michel Brunet vous parler de la nécessité d'observer le comportement et les milieux des grands singes. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'en France, c'est une recherche qui est très peu développée, mais elle est très développée, enfin, elle est davantage développée par des collègues d'autres origines, je dirais. Cela étant, il y a urgence à observer à la fois le biotope et les activités de nos très proches parents, parce qu'ils sont en train de disparaître. Donc, en fait, là, on est vraiment dans une sorte d'urgence qui fait qu'il serait bon que ces recherches se développent davantage, c'est vrai. Cela étant, je dirais que depuis les 20 dernières années, on a vraiment appris beaucoup. Et pour nous, c'est pour les archéologues comme moi qui travaillent sur la préhistoire très ancienne, c'est capital. On a appris énormément, effectivement, de nos collègues primatologues, avec qui on travaille d'ailleurs de façon de plus en plus étroite, sur les comportements techniques, au-delà de leur milieu et de leur écologie. On a beaucoup appris. Et c'est vraiment une recherche qui est en train de se monter et de se développer, et c'est très bien. Alors, je vous ai mis donc là deux exemples, celui d'une loutre qui est à même... Je ne l'ai jamais vue et je ne connais que cette représentation, cette image qui est ici. On n'a jamais vu de photo, bien sûr. Ça doit être assez difficile à saisir. Une loutre qui peut casser, parce qu'elle se nourrit entre autres de coquillages, et qui est à même de casser un coquillage entre une pierre qui lui sert d'enclume et une autre pierre qui lui sert de marteau. Et bien sûr, chez les chimpanzés, certains, pas tous, dans certaines régions, se nourrissent de noix à coque dure, et il leur faut casser ces noix pour en extraire, enfin casser la coque de la noix pour en extraire la noix elle-même et se nourrir. Et donc ils utilisent pour ça, pareil, une enclume, un marteau. Ce faisant, ils ne font que prélever dans l'environnement un matériau naturel, qu'il soit de minéral, végétal ou animal. On peut penser à un os. Les chimpanzés d'ailleurs peuvent se servir de, comme enclume peut se servir d'une racine, c'est pas forcément de la pierre, mais ils ne font qu'utiliser comme outil, et donc cette faculté-là est partagée par un certain nombre d'espèces animales. De la même façon, modifier avant son utilisation un matériau meuble ou plastique, comme une branche par exemple, c'est aussi quelque chose qu'un certain nombre d'animaux, et notamment les chimpanzés, sont capables de faire. Mais en revanche, la capacité à modifier un matériau dur, fragile, comme la pierre, et cassant, qui se casse selon une loi physique bien particulière, qui est celle de la fracture conchoïdale, avec un objet intermédiaire, un percuteur donc, cette faculté-là, elle est unique aux primates humains, et à leurs ancêtres directs. Alors, je dirais, actuellement, il y a très peu de groupes humains qui utilisent encore les outils de pierre. Il y en a encore quelques-uns. Les photos que vous avez ici ont été prises il y a déjà quelques années, mais je crois que c'est en train aussi de se raréfier chez les Papouasies chez les Papous de Nouvelle-Guinée, par un archéologue qui s'appelle Pierre Pétrequin, et qui continue, les Papous de Nouvelle-Guinée continuent de tailler la pierre, mais surtout en fait à des fins plutôt symboliques que pratiques. Et puis bien sûr les expérimentateurs, ici mon collègue Pierre-Jean Texier qui était là l'année dernière pour vous faire une démonstration de taille. Et là, un collègue américain, qui est le meilleur australopithèque que je connaisse, il fait ça très bien. Ce n'est pas facile d'être australopithèque. Voilà. Et bien sûr, nos ancêtres qui ont abondamment taillé la pierre, et heureusement, car sinon, nous n'aurions pas grand-chose à nous mettre sous le cerveau, sous les yeux et le cerveau, pour parler de leurs activités techniques. Alors, donc, je reviens brièvement, je vais vous présenter brièvement les plus anciens témoignages. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Éthiopie, dans cette région du triangle de l'Afar, où les plus anciens sites actuellement connus ont été trouvés. J'y ai travaillé, donc j'ai trouvé les premiers il y a fort longtemps. Et puis, le travail a été repris par des collègues éthiopiens et américains par la suite. Alors, forcément, je vais vous montrer un peu quelques cailloux. D'ailleurs, je ne vous montrerai quasiment que ça, puisque c'est tout ce qui nous est parvenu, c'est tout ce qui nous reste pour approcher les activités techniques, les comportements techniques et finalement l'intérieur, le cerveau des hominidés. C'est tout ce que nous possédons, mais on peut faire dire pas mal de choses à ces pierres taillées. Donc ici à Gona, 2006, ça c'était, vous voyez d'ailleurs ça se ressemble beaucoup, c'est les objets que j'avais mis au jour moi il y a très longtemps, donc vous voyez la date de la publication, ça ne nous rajeunit pas. Et puis les éléments plus récents trouvés par mon collègue éthiopien. Donc on est là dans une technologie très simple, des galets bruts, enfin des galets desquels on a retiré quelques éclats. Ces galets deviennent des nucléus. Je ne pense pas que ceux-ci ont pu servir comme outil coupant, et ça, ce sont vraiment des nucléus qui n'ont pas pu servir à autre chose. Voilà, et donc là, d'autres éléments de ces très vieilles industries d'Omiliosis, c'est les industries les plus anciennes que l'on connaisse actuellement. Toujours dans l'Afar éthiopien, j'ai une collègue israélienne, Erela Overs, qui a travaillé et fouillé deux sites, et vous voyez que ce qu'elle a trouvé ressemble beaucoup à ce que je viens de vous montrer précédemment. On est là encore dans quelque chose de très simple. Deuxième région importante, le bassin du lac Turkana, avec trois groupes de recherche qui fonctionnent actuellement. Dans le nord, dans la formation de Chungura, un groupe de recherche dirigé par Jean-Renaud Boistry, qui est un élève de Michel Brunet, et qui, avec son équipe, en train de travailler. Koubifora, à l'est, mais avec des dépôts un peu plus récents, donc, qui ne porte pas, il y a un vide sédimentaire en fait entre 2, 3 et 2 millions d'années dans la formation de Koubifora, ce qui fait qu'on n'a pas de site très ancien à Koubifora. C'est pourquoi je n'en parlerai pas, mais il y a énormément de recherches qui sont menées, qui ont été menées depuis une quarantaine d'années dans cette région. Et puis l'Ouest Turkana, où je travaille moi-même avec mon équipe depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc dans le nord, dans l'Omo, dans la formation de Chungura ici. Ça a été une équipe internationale qui a été co-dirigée par Yves Coppens et Clark Cowell, qui a travaillé dans les années 70 dans la vallée de l'Omo. Et entre autres, ont été mis au jour un certain nombre de sites archéologiques avec une industrie un petit peu particulière, faite essentiellement sur des petits nodules de quartz. Grosse contrainte de la matière première, là, je reviendrai là-dessus. Donc, voilà ce qu'ils ont pu faire, débiter, tailler des petits galets de quartz pour en tirer des éclats, au demeurant certainement fort efficaces. Et puis, dans l'Ouest Turkana, le West Turkana Archaeological Project, où je travaille, et qui a une particularité, la formation de Natshukui dans laquelle nous travaillons, a la particularité d'avoir une séquence archéologique très longue et unique. Ça n'existe nulle part ailleurs, puisqu'on a nos sites les plus anciens sont à 2 millions, entre 2,3 millions et 2,4 millions, et nous avons des sites jusqu'à 700 000 ans. Donc c'est une séquence très longue qui permet l'observation et de l'évolution des comportements des hominidés. Et nous avons pour l'instant une soixantaine de sites, dont une trentaine qui ont été fouillés très largement. Et c'est ce que j'avais présenté ici il y a 2 ans, essentiellement, ce travail-là. Aujourd'hui, mon propos est un petit peu différent. Je reviendrai simplement sur les sites les plus anciens. Donc, entre 2,4 millions et 2,3 millions, on a trois sites, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sites au-delà de, enfin, en deçà de 2 millions d'années sont très rares. Ça se compte sur les doigts de deux mains, en tout et pour tout, je veux dire. Donc, dans l'ouest Turkana, on a trois sites, Lokalelei 1 est le premier. Et là encore, on est dans quelque chose de très simple, de très rustique, je dirais. Taille assez grossière, de gros blocs de matière première pour donner des éclats. J'ai mis là une petite dent qui est en fait une dent d'un, ce qu'on appelle en anglais early homo, enfin d'un homo, un des plus anciens sans doute, 2,3 millions, donc à côté de trouver une surface à côté du site. Première apparition du genre homo dans le bassin du lac Turkana, à 2,3 millions. À côté de ce matériel taillé, toujours dans nos anciens sites, on a un matériel de percussion. Alors, avec des objets comme ça qui sont à l'évidence des percuteurs qui ont servi à tailler la pierre, avec des zones d'impact très centrales, très locales, très localisées, très nettes. Ça ne nous pose pas de problème d'interprétation. Et puis, on trouve, accompagnant le matériel taillé et ses percuteurs indubitables, des pierres qui ont été utilisées pour des activités de percussion. Et je travaille beaucoup là-dessus, et notamment on a un programme avec des primatologues pour travailler là-dessus. On a encore beaucoup de mal à interpréter, il faut faire beaucoup d'expérimentations, ce qu'on fait également, pour interpréter ces objets qui ont servi à de la percussion, sur lequel je reviendrai bien sûr. Et puis, le site assez connu de Lokalelei 2C, puisqu'il nous a permis de modifier notre appréhension, notre compréhension de ce qu'étaient capables de faire, enfin nos connaissances, sur ce qu'étaient capables de faire nos ancêtres à 2,3 millions. On n'est plus là du tout dans un système simple, mais au contraire, dans un débitage organisé d'éclats. Et on a pu mettre ça en évidence parce que ce petit site, c'est un site qui fait moins de 20 mètres carrés, mais qui contenait beaucoup de matériel. Ce petit site c'était un moment, si vous voulez, intact. Et donc, on a pu faire des remontages, c'est-à-dire reconstituer les blocs tels qu'ils étaient avant d'être taillés. Et ce faisant, on a pu, donc, geste par geste, comprendre et donc interpréter la façon dont ils avaient procédé. C'est très simple, ils sont partis de blocs avec une section dissymétrique, une face plane et une face convexe, et ils ont exploité de façon centripète la face plane, la descendant régulièrement, en tournant autour, ce qui permettait de garder la morphologie originale du bloc et une exploitation au maximum. Et de ces deux galets sur lesquels on a taillé quelques éclats, on passe là à un débitage. Ce bloc-là qui est en partiellement remonté, et voilà ce qu'il en reste, c'est le nucléus résiduel, de ce bloc-là a été débité au moins une cinquantaine d'éclats. Je crois que j'ai un autre exemple. Et là, c'est ma collègue Anne Delagne qui a participé à ce travail et a fait un certain nombre des remontages que je vous montre. Un autre bloc qui a une histoire un petit peu plus compliquée. Mais de ce bloc-là ont été tirés près de 80 éclats. Donc, vous voyez, on est là dans quelque chose de beaucoup plus complexe, plus élaboré. Donc, on peut dire qu'au moins un groupe d'hominidés, à cette époque-là, était capable de faire, de pratiquer une taille similaire. Et bien sûr, c'est très pâle. C'est beaucoup plus net sur mon... Je suis désolée, c'est extrêmement pâle. C'est beaucoup plus net sur mon écran. Et donc, la production, une production importante d'éclats résulte de cette activité de taille. Certains de ces éclats portent des retouches et donc ont été utilisés et retouchés. Alors, de la même façon, à Lokalelei 2, on a des percuteurs très, très nets, avec des petites zones de percussion très sans aucune équivoque. Et puis, des objets portant des traces de percussion en attente d'interprétation, si je puis dire. Dernier site, je passe vite, il est en cours de fouille, il vient juste d'être terminé de fouiller, il est toujours en cours d'étude, Nassoura 1, même âge, et il y a un Nassoura 2 sur lequel on est en train de travailler, qui était un petit peu plus ancien. Voilà. Donc là, on est plutôt à nouveau dans un système simple, je dirais, d'exploitation des nucléus, encore que celui-ci relève plutôt du schéma de Local-LI2C. Mais on n'a pas, c'est pas du tout le même genre de site et on n'a pas la possibilité de faire des montages. On en a fait quelques-uns, mais très peu. Et toujours les mêmes objets de percussion. Je fais un petit bond dans le temps pour vous montrer entre 2 millions et 1,8 million. On a évidemment d'autres sites dans l'ouest Turkana sur lesquels on a pu aussi faire, notamment sur celui-ci, Coquille Soleil 5, faire des remontages. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec mon collègue Pierre-Jean Texier, justement. Et donc là, c'est évidemment un peu plus compliqué à interpréter, mais là, on passe encore, je dirais, dans un système technique, dans un système un petit peu plus complexe, avec des changements d'orientation du nucléus, d'ouverture de nouveaux plans de frappe. Donc, on progresse dans les habiletés techniques, mais on est aussi presque 1 million d'années plus tard, donc ça n'a rien d'étonnant. Alors, cela étant, à la même époque, un site très proche, j'ai juste sélectionné deux ou trois sites comme ça pour vous montrer à titre d'exemple, le site de Nayena Ngol 10, même âge à peu près que Coquille Soleil 5, mais là, vous voyez juste quelque chose qui ressemble étonnamment à l'Olduvayen d'Olduvai, dont je vais vous montrer une image après. Olduvai, c'est un site en Tanzanie qui a été fouillé pendant de très longues années par la famille Leakey, Louis et Mary Leakey. Et je veux dire, dans les années, quand j'ai commencé moi à faire de la préhistoire, on a eu cette espèce de bombe, je dirais, qui nous annonçait que la date des plus anciens hominidés et de la fabrication des outils remontait à près de 2 millions d'années. Et c'était à l'époque quelque chose de très difficile à concevoir et à admettre. C'était tout à fait juste. Bien sûr, les datations étaient tout à fait exactes. Et donc, de ce travail à Olduvai a été forgé le mot de Olduvayen qui désigne maintenant tout ce qui représente les plus anciennes industries comprises donc entre 2,6 millions et 1,7 millions au moment où apparaît l'Acheuléen, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc là, on a quelque chose de très simple, juste des galets de petite taille, sont des petits galets de rivière, à peine taillés, mais très peu taillés, et qui ressemblent beaucoup, et c'est effectivement ce qu'on trouve à Olduvai à la même époque, en Tanzanie. Alors donc, ces quelques images, c'était pour vous montrer ce dont on disposait comme matériel et vous montrer aussi qu'il y avait une certaine variation, une certaine variabilité dans ces ensembles lithiques. Une des hypothèses souvent mises en avant, c'est la matière première. La matière première joue un rôle dans la façon dont les hominidés ont taillé. D'abord, bien sûr, il fallait qu'ils aient accès à une bonne matière première. Et je vous souvenais, je vous ai montré les petites industries de l'Homo, ces petits blocs de quartz avec lesquels ils ont taillé. Là, il y a une contrainte de la matière première. Apparemment, ils n'avaient peu d'autres éléments à leur disposition. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Sinon, par exemple, dans l'ouest Turkana, on n'a pas ce problème-là. La variabilité n'est pas due à la matière première. Ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient et surtout, ils ont choisi. Alors là, c'est le travail de Sonia Armand, maintenant au CNRS, qui a fait sa thèse sur l'approvisionnement en matière première des hominidés dans l'ouest Turkana. Et par exemple, pour le site de Local-LI2C, à 2,3 millions, elle a cherché des sources types dans lesquelles elle a prélevé. Et donc, il en ressort 4 matières premières principales. Ce sont des laves, hein, des roches volcaniques, comme toutes nos industries sont faites sur laves. Phonolite, basalte, trachyte et rhyolite. Dans la source type, vous voyez qu'il y a très peu de phonolite, enfin, ça se répartit de façon assez égale. Sur le site, quand on regarde ce que les hominidés ont utilisé, eh bien, ils ont prélevé essentiellement, ils ont choisi essentiellement la phonolite au détriment des autres roches qui sont pourtant disponibles dans le paysage. Donc il y a choix de la matière première. Et de même, je n'insisterai pas là-dessus, ils ont très souvent choisi les blocs en fonction de leur morphologie, notamment ceux de Localeï de C, dont je vous ai dit qu'ils avaient choisi des blocs de morphologie très, très particulière, avec une face plane et une face convexe. Donc, quand il y a disponibilité, ça, évidemment, c'est la contrainte, quand il y a disponibilité, il y a choix et une certaine indépendance par rapport à cette contrainte de la matière première. Maintenant, vous avez vu, ce qui peut rendre compte aussi de la variabilité, c'est bien sûr, à nouveau, toutes ces processus de formation de sites qui jouent un certain rôle. Et de mon point de vue, bien sûr, la variation à l'intérieur d'une même espèce ou, à les savoir, de deux espèces qui auraient pu tailler la pierre. Par exemple, chez les chimpanzés, les chimpanzés ne se servent pas tous d'enclume et de marteau pour casser des noix. La bonne raison est que tous ne mangent pas de noix. Donc, en fait, en fonction de leurs besoins alimentaires, ils ont des comportements techniques qui vont avec. Je pense que pour nos hominidés, c'est exactement la même chose. Variation peut-être dans le régime alimentaire, et puis une variation dans les habiletés, dans les capacités motrices, les capacités cognitives et motrices dont ils sont capables de faire preuve. Il faut quand même se rendre compte qu'on parle d'une période qui court sur 1 million d'années. 1 million d'années, ça fait beaucoup d'espèces possibles et surtout beaucoup de générations d'hominidés vivant dans un espace grand, dans un grand espace, et ne se rencontrant pas forcément et n'échangeant pas forcément. Donc la variation inter- et intraspécifique joue un rôle, et bien sûr l'adaptation fonctionnelle à une situation donnée de contraintes de alimentaires, contraintes du paysage, de l'environnement. On en vient maintenant à ce qui est vraiment le propos de ce séminaire, c'est-à-dire l'usage de cet outillage lithique. Alors donc, vous l'avez vu, des objets coupants extraits de blocs, taillés à partir de blocs de matière première, qui peuvent donc être des outils pour couper, racler, percer, etc. Des objets de percussion qui peuvent avoir servi à tailler la pierre, bien sûr, casser et broyer. Enfin, toute activité, ce qu'un objet percutant peut être employé à. Et puis, accompagne toujours ces ensembles, il y a toujours des blocs bruts non modifiés, dont, évidemment, l'interprétation n'est évidemment pas toujours facile à faire, mais qui sont très souvent présents dans nos ensembles lithiques. Alors, associé à cet outillage lithique, on a des restes de faune, mais pas toujours. La taphonomie et les processus de formation de sites jouent un grand rôle. On a parfois des restes phoniques préservés, et parfois non, même s'ils ont été présents à l'origine de la formation du site. Donc ça, c'est vraiment des conditions de préservation des sites qui fait qu'on a ou non des restes de faune. Et bien sûr, malheureusement, toujours dans ces périodes-là, enfin pour la période qui nous concerne, une absence cruelle de restes végétaux. Ce qui fait qu'on a un peu parfois l'impression que nos hominidés vivaient dans un monde minéral et éventuellement avec des ossements autour d'eux, mais bien évidemment, la part végétale devait jouer un rôle considérable, mais il ne nous en reste rien. Je vais vous parler de la première fonction, donc la fonction coupante, des outils que nous avons, que les hominidés avaient à leur disposition. Alors, il est sûr que ces petits outils, ces petits éclats taillés ou ces plus gros objets sur lesquels on a taillé un bord coupant servent à couper. Et ça, on l'a étudié avec toute une série d'études expérimentales et actualistes. On a bien sûr des références ethnographiques. mais on n'a pas de référence dans le monde animal. Donc, on en est là pour nos interprétations, un peu plus compliquées pour nos périodes, parce que la tracéologie, qui est la science qui nous permet, la discipline qui nous permet d'observer les bords des outils à fort grossissement, ne peut pas se pratiquer, enfin, on a essayé bien sûr, mais ne donne rien sur les matériaux à partir desquels sont faits nos outils. C'est-à-dire que ce sont des roches volcaniques, comme je vous l'ai dit, donc à grains relativement grossiers, grenus, sont des roches grenues, et qui ne préservent pas ou qui ne retiennent difficilement la trace d'une activité technique, ce qui n'est pas le cas de roches beaucoup plus siliceuses, beaucoup plus riches en silice, comme le silex, bien sûr, des roches à grains très fins, et là, sur lesquelles on peut à la fois identifier la matière d'œuvre sur laquelle on a travaillé, par les polis qu'elle laisse, que ce soit du végétal ou des tissus animaux, et aussi comment le travail a été effectué. Est-ce qu'on a raclé, est-ce qu'on a scié, est-ce qu'on a... voilà. Mais sur nos matériaux à nous, c'est impossible. Donc on n'a pas de tracéologie directe possible. Et donc c'est un peu plus compliqué à interpréter. Alors on a quand même quelques traces de indirectes, je dirais, sur les ossements en os. Et là, en os. Là, je ferai une petite parenthèse pour vous parler brièvement d'une trouvaille qui a été faite, enfin d'une publication plutôt, qui a été faite très récemment, l'année dernière donc, sur un os, deux ou trois os trouvés en surface dans l'Afar éthiopien, la région où on a aussi trouvé les plus anciens outils, qui attesteraient d'une utilisation d'un outil, c'est donc deux ou trois os qui portent des traces de découpe, et donc qui attesteraient l'utilisation d'un outil à 3,3 enfin presque 3 millions 4. Voilà. Alors, j'ai mis des points d'interrogation parce que d'une part, ces traces sont contestées, bien sûr, et d'autre part, ce sont quand même des objets qui ont été trouvés en surface et pour un archéologue, la surface, ça ne compte pas. Voilà. Donc, je suis dubitative, intéressée et dubitative. Ensuite, dans un certain nombre d'autres sites, nous avons... Alors, le même phénomène s'est présenté à Bouri, qui est également en Éthiopie, dans un autre bassin éthiopien. Vous avez dû entendre parler en tant que... puisque c'est le berceau de Australopithecus gari. Donc, et là, on a également trouvé des ossements hors contexte, avec portant des traces de découpe, mais associés avec, non pas associés avec des outils. Voilà. Autrement, dans les sites archéologiques associés avec des outils, certains restes de faune, certains ossements portent des traces de découpe sur les os. Alors, il y en a à Gona à 2,6 millions, à Lokalelei 1, un os site dans l'ouest de Turkana, et dans un site d'Olduvai à 1,8 million. C'est quelque chose qu'on recherche énormément, que les archéologues travaillent et les paléontologues travaillent beaucoup sur la recherche de ces traces de découpe. Ce n'est pas facile à observer, mais ça se fait et on a quand même quelques éléments là-dessus. Donc, c'est de la tracéologie indirecte, je dirais, qui atteste quand même de l'utilisation d'un objet coupant pour un travail de boucherie. Donc, puisqu'on a des traces sur les ossements, on peut donc faire l'hypothèse d'un travail de boucherie avec nos petits éclats et nos outils de pierre. Alors, l'expérimentation, ça c'est une expérimentation qu'on a faite avec des étudiants au mois de mars dernier au Turkana. Et puis, vous verrez, va apparaître maintenant dans ma présentation des images, puisque bien évidemment, pour ce qui est de l'activité des hominidés eux-mêmes, on ne peut que formuler des hypothèses et donc avoir une représentation imagée, je dirais. Alors, outillage généraliste, à dire vrai, il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites avec toute forme d'outils coupants, et tous se prête assez bien au travail de boucherie. Donc, on peut dire qu'on n'a pas besoin d'un outil particulier. Si vous découpez une chèvre, parce que ce n'était qu'une chèvre, bien sûr, là, dans notre expérience, on a fait ça avec des petits éclats, et ça a très, très bien marché. Ça a permis aux étudiants de constater que, au bout d'un moment, un outil plein de graisse, de poussière, de graisse surtout, de sang, coupait plus très bien, très vite. Donc, il fallait en changer. Donc, une des hypothèses qu'on formule assez souvent, c'est que le développement de l'outillage, pourquoi est-ce qu'on a le développement de l'outillage de pierre à partir d'un certain moment ? Est-ce que ça ne serait pas lié à des activités qui nécessitaient d'avoir un outillage relativement abondant ? Mais je reviendrai sur cette hypothèse-là. Alors, la fonction coupante, deuxième hypothèse, c'est pour le végétal. Mais là, encore une fois, on n'a aucune indication archéologique, si ce n'est plus tardivement, ici, un biface. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose d'un peu plus tardif, on est dans de l'acheuléen ancien, et avec des traces de phytolithes, qui sont des micro-fossiles qui habitent dans les végétaux, si je puis dire, des traces de phytolithes qui ont été retrouvées. Ça, c'est un site qui s'appelle Péninge, qui est en Tanzanie, mais qui est un peu plus récent, c'est de l'acheuléen. Donc là aussi, on en est réduit aux études expérimentales et actualistes. On a quelques références ethnographiques. Là, c'est mon ami Samy qui nous fait une belle démonstration de coupage de branches assez épaisses, que vous pouvez voir, avec un outil qu'il a fabriqué en trois coups de percuteur pour le besoin de l'expérimentation. Et bien sûr, là aussi, pas de référence dans le monde animal vivant actuel. Donc, on est toujours à peu près dans la même configuration. Alors, cela étant, pas de référence dans le monde animal, les chimpanzés n'ont besoin de rien d'autre que leurs dents et leurs doigts pour effeuiller des branches, pour aller à la pêche aux termites, par exemple, pour se construire des nids, pour ça, ils n'ont pas besoin d'outils. Et cela étant, cette petite chose, c'est une petite qui vient d'une publication de 2007 qui est assez intéressante. Ce petit objet, c'est juste une petite branche appointée par un chimpanzé, appointée avec les dents, mordillée et appointée avec les dents. Mais ce n'est pas tant l'objet en lui-même que ce à quoi il a servi. Il servait à essayer de déloger, alors on ne peut pas parler de chasse à proprement parler, mais de déloger un bush baby, c'est des petits galagos qui vivent dans des terriers, enfin qui font des terriers, pour le chasser quand même, le tuer et le manger. Donc, je n'irai pas jusqu'à parler de chasse, mais il y a quand même là un comportement qui tend vers ça, avec un objet modifié. Alors, modifié avec les dents et avec les doigts, mais qui quand même approche la modification d'un élément, végétal en l'occurrence, pour acquérir de la nourriture. Donc, si un chimpanzé actuel, vivant actuel, qui ne taille pas la pierre, qui a un équipement technique très limité, se livre à ce genre d'exercice, d'activité, on peut évidemment penser que nos hominidés ont fait aussi bien, si ce n'est mieux, d'où leur équipement technique plus développé. Alors maintenant, pour ce qui est de la percussion, comme je vous l'ai dit, on a un matériel abondant, des percuteurs, des traces directes sur beaucoup d'objets, mais encore mal identifiées. Les traces indirectes existent, sur les os notamment. Ici, c'est un os long, je ne sais plus lequel, j'avoue, avec des traces faites par un objet contondant, et vraisemblablement un chopper, c'est-à-dire un outil un petit peu solide, un peu robuste, sur un os long provient d'un site d'Olduvai, en Tanzanie. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Elles sont peu nombreuses, ce genre de traces indirectes sur les ossements archéologiques, les ossements préhistoriques, mais on en a quand même, on en a aussi dans l'ouest turkana, ce sont des traces d'activité qu'on peut reconnaître, qu'on peut identifier, et puis bien sûr, après, on peut imaginer et dessiner tout ce que l'on veut dans ce domaine de la percussion. Il y a un autre type d'outil qui a pu être utilisé et qui, lui, avait peut-être besoin d'être un peu façonné, c'est le bâton à fouir. On a là très peu d'éléments sur l'alimentation végétale, comme je vous l'ai dit, mais on peut penser, et des études actualistes ont été faites dans les années 80 à ce propos, sur les possibilités d'alimentation végétale et notamment de comment on dit, ce qui est enfoui dans le sol, et donc il faut les déterrer. Alors, on a une toute petite indication de cette activité en Afrique du Sud, dans un site qui s'appelle Swartkrans, où on a trouvé des objets en os, alors, et non pas en bois, qui peuvent avoir servi, c'est la tracéologie qui le dit, qui peuvent avoir servi à bâton à fouet, en quelque sorte. Les objets en os sont aussi extrêmement rares. Les objets en os façonnés sont rarissimes, sont inexistants dans les périodes les plus anciennes et commencent à apparaître autour de 1,8 million. On en a à Olduvai notamment, mais ça vient plus tardivement. Alors, puisque ceci me conduit à un peu à parler du régime alimentaire, puisqu'il est fort probable le développement de cette technique, de cette technologie lithique, essentiellement centrée sur le lithique, avait un rapport très étroit avec l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le régime alimentaire des hominidés en mettant en relation un peu ce qu'on trouve dans les sites au point de vue restophonique et nos outillages ? On peut alors bien sûr pencher pour un régime relativement omnivore, ce qui est très, très possible dans cette savane relativement ouverte, et puis pencher davantage, ou plutôt cheminer les deux en même temps, au développement de la carnivorie, qui a souvent été mise en avant et qui est mise en avant pour justifier ou pour expliquer le développement de l'industrie lithique. Alors, développement de la carnivorie, très certainement, malgré le peu d'éléments tangibles qu'on a par rapport à l'outillage, on a quand même un certain nombre de un faisceau d'indications qui vont vers le développement de la carnivorie chez les hominidés. Et bien sûr, ça a beaucoup d'implications biologiques, mais ça, ce n'est pas mon domaine et je ne vous en parlerai pas. Mais ça a des implications sur les modes de vie et le développement technique. Une des premières implications, c'est la relation avec les autres carnivores. Dans la savane, bien sûr, il y a toujours compétition. Je pense que nos hominidés ont été en compétition et sans doute en protection contre les carnivores. Alors, on a quand même quelques exemples intéressants de cette interaction fort malheureuse pour les hominidés, en l'occurrence là, ce que je vais vous montrer, de rencontres avec les carnivores. Ça, c'est évidemment une représentation imagée, mais à Swartkrans, toujours, on a, c'est un crâne de paranthrope, je ne me trompe pas, oui, qui a été retrouvé et qui présente deux grosses perforations qui correspondraient à ce que vous représente cette image-là, à l'attaque mortelle, de toute évidence, d'un hominidé par un gros félin. Ici, c'est à Tong, un petit australopithèque qui porte dans l'orbite des traces de serres d'aigle. Et ici, c'est un pied d'Homo habilis qui portent des traces peut-être interprétées comme des traces de dents de crocodile. Donc voilà à peu près, si vous voulez, les félins, les crocodiles, éventuellement les oiseaux de proie, toutes sortes d'animaux dangereux pour nos hominidés qui vivaient en même temps que dans le même environnement. Mais quand si donc l'autre avant de venir à ma conclusion, je voulais ici je vous ai mis à peu près les animaux, les restes de, enfin, qui correspondent aux restes de faune qu'on a pu trouver dans les sites portant des traces de boucherie. J'ai pas mis n'importe lesquels, c'est vraiment des animaux, des restes. On a trouvé des restes fauniques. Alors on a trouvé des restes fauniques dans tous les sites dont je vous ai parlé. Hein. C'est pas un seul site, ça s'est réparti sur plusieurs sites. Il y a une quinzaine de taxons qui ont été identifiés et qui peuvent correspondre à des ressources alimentaires des hominidés dans la savane. Donc il y a en tout et pour tout sept taxons de bovidés. Donc je vous en ai mis trois. La petite Dorcas, qui est une toute petite gazelle, c'est la plus petite, et puis une gazelle de Thomson, un gnou, wildebeest. Bon, et il y a d'autres bovidés. Il y a, je crois, deux sortes de suidés. Ici, ce sont des phacochères. Bien sûr, je vous ai mis les animaux actuels. Ceux qui sont dans les sites sont les ancêtres de ces animaux-là. Il y a deux sortes d'équidés, zèbres et écus, une girafe, des hippopotames, de l'hippopotame et de l'éléphant. Donc, si vous voulez, l'écart, enfin la taille de ces animaux va de petits éléments et sans doute de plus petits encore qui ne sont pas représentés dans ce spectre faunique, parce qu'on ne les a pas trouvés, jusqu'à l'éléphant. Il se trouve que parmi les primates, les hominidés sont les premiers à, semble-t-il, avoir consommé des animaux dont le poids est beaucoup plus considérable que leur propre poids. Alors, ils ne l'ont pas fait seuls, bien sûr, c'est certainement à plusieurs, mais c'est une des caractéristiques de ce développement de la carnivorie, une des conséquences. Alors, l'autre paramètre à considérer, c'est évidemment les modes d'acquisition. Car je vous ai dit, si les hominidés, s'ils interagissent avec les carnivores, ils peuvent rester encore proies, et puis ils peuvent être, cela étant, en compétition sévère avec les autres carnivores pour acquérir cette partie alimentaire. Il y a plusieurs hypothèses sur la façon dont les hominidés ont pu se acquérir satisfaire ce besoin alimentaire. Et l'hypothèse la plus privilégiée pour ce qui est des périodes les plus anciennes, donc vraiment qui coïncide avec le développement de l'outillage lithique, c'est ce qu'on appelle le charognage passif, c'est-à-dire la récolte de carcasses. Une fois qu'elles ont été abandonnées par les carnivores qui les ont tuées, donc par les félins ou les canidés qui les ont tués. Donc c'est ce qu'on appelle le charognage passif. Là, il n'y a pas de compétition. Il peut y avoir de la protection malgré tout, mais on est peu en compétition avec les carnivores. L'autre possibilité, c'est évidemment le charognage plus conflictuel, c'est-à-dire en compétition directe avec les prétendants aux carcasses, ceux qui les ont tués et ceux qui viennent aussi charogner dessus, comme les hyènes, par exemple, ou les vautours. Et puis la troisième possibilité, c'est la chasse. Mais il n'y a rien qui permette d'attester d'une activité de chasse. Il n'y a rien non plus qui permette de la dénier totalement, mais la chasse au gros animal. Alors, le charognage, en fait, il est proposé, non pas gratuitement, mais en fonction des traces, justement, de découpe sur les animaux, enfin, sur les restes fauniques qu'on a, c'est-à-dire, principalement, on trouve essentiellement des membres, hein, des parties de la carcasse donc, qui sont facilement détachables et déplaçables ensuite vers un endroit plus sûr pour le consommer. Et donc, les traces de découpe attestent de cette pratique, enfin, attestent, ou du moins, permettent de favoriser cette hypothèse. Alors, donc, je terminerai avec ça, l'accroissement d'outillage lithique, est-ce que ça ne serait pas lié, effectivement, au développement de la carnivorie? C'est une de nos hypothèses, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit dans un scénario de charognage passif et plus encore de charognage conflictuel, mieux vaut avoir son petit équipement tout prêt pour détacher les membres de la carcasse et se dépêcher de s'éloigner d'une proie qui peut encore intéresser les carnivores ou les autres prédateurs. Et donc, est-ce que le développement de l'outillage lithique, l'accroissement d'outillage lithique, ne serait pas lié au développement de la carnivorie chez les hominidés? C'est donc ça une hypothèse assez plausible à l'heure actuelle. Et pour terminer, à qui a bénéficié essentiellement du développement de cette technologie lithique? Alors, j'ai cette petite frise d'hominidés que je trouve un peu biaisée parce qu'en fait, j'imagine que ça, c'est un brave paranthrope. Et comme vous voyez, il a les mains vides. Et que là, on a un Homo habilis en train de tailler. Et ici, un Homo erectus également, très en train de s'activer avec un outil. C'est lui en tout cas, qui a commencé à tailler la pierre. Vous savez qu'ils sont contemporains, qu'ils ont évolué dans des milieux similaires. Je n'ai personnellement pas de prévention sur le fait que notre paranthrope ait pu tailler la pierre, personnellement. Mais force est de dire que sa lignée a disparu complètement. Donc, en tout cas, il a été il a eu beaucoup de succès, puisqu'il a quand même duré très longtemps, jusqu'à 1 million d'années. Mais ce sont eux qui ont donné naissance à la lignée humaine. Donc, je ne sais pas à qui a bénéficié le plus le développement de la technologie lithique, mais en tout cas, c'est une lignée qui nous l'a transmise jusqu'à ce que l'Homo sapiens arrive sur Terre. Je vous remercie. Thank you.